Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfoisse.
Bonjour, Daniel Morfoisse en votre compagnie pour le Grand Orient de France. J'ai le plaisir de recevoir pour cette émission d'été Pierre Mollier, responsable des archives et de la bibliothèque du Grand Orient de France et conservateur du musée de la franc-maçonnerie. Bonjour Pierre Mollier.
Bonjour Daniel.
Je vous présentais en insistant sur votre fonction de conservateur du musée de la franc-maçonnerie parce que nous allons revenir sur la troisième édition parisienne de la World Conference on the History of Freemasonry, dans un mauvais anglais, dans lequel le musée de la franc-maçonnerie, un des co-organisateurs, a eu un rôle éminent. Si, comme je l'ai dit, c'était bien la troisième édition parisienne, d'autres éditions ont précédé celle-ci, notamment en Écosse, je crois.
Oui, au début des années 2000, nos collègues de la Grande Loge d'Écosse ont voulu réunir les différentes écoles de recherche maçonnique. Alors, il y a une école britannique qui est très ancienne, qui remonte à la fin du 19e siècle. Il y a une école d'histoire maçonnique française qui remonte au milieu du 20e siècle. Une école américaine qui a connu un dynamisme renouvelé dans les années 1990. Et donc, l'idée, c'est que chacun était un peu dans son propre terrain. Et l'idée, c'était de confronter ses points de vue et de s'enrichir du travail des autres. Et donc, au début des années 2000, la Grande Loge d'Écosse a parrainé la première conférence internationale d'histoire de la franc-maçonnerie. Il y en a eu trois éditions, et puis c'est un gros travail d'organisation, etc. Mon collègue Bob Cooper est parti à la retraite, donc finalement, on a cherché en quelque sorte un relais, et c'est nous qui avons pris le relais pour organiser la suite de ces conférences. Et à Paris, c'est la troisième.
Cette conférence mondiale se tenait à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, et c'est pas un hasard, puisque une bonne partie des archives de la franc-maçonnerie française, et donc du Grand Orient de France, sont à la BNF.
Oui, alors la BNF conserve un très important département maçonnique, un fonds maçonnique, qui a plus d'un kilomètre de rayonnage d'archives, qui remonte du milieu du XVIIIe siècle à 1900, qui sont d'ailleurs pour l'essentiel les archives du Grand Orient qui lui ont été données au lendemain de la guerre. Et donc, la BNF essaye de faire connaître et de valoriser ces fonds, d'où cette association, alors dont l'apogée était la grande exposition qu'on a fait il y a quelques années. Mais donc, autour de cette exposition, on a commencé à faire ces colloques, et puis finalement, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les deux ans, qui permet de découvrir pour le public qui vient d'autres pays le fonds de la Bibliothèque nationale, et la Bibliothèque nationale est donc un grand centre d'archives maçonniques à Paris, et même en Europe d'ailleurs, elle a un des fonds les plus importants. Et
il y aura une quatrième conférence internationale.
En 2021 maintenant.
En 2021. Alors, cette conférence mondiale est un événement pour les chercheurs, mais c'est aussi la reconnaissance du rôle et de l'importance du musée de la franc-maçonnerie. Vous n'oserez peut-être pas le dire, monsieur le conservateur.
Oui, le musée est très actif. Il accueille un public nombreux, et d'ailleurs en partie étranger à la maçonnerie, mais qui veut la découvrir. Mais comme tous les musées, il a aussi une activité scientifique. Et d'ailleurs, avant cette conférence à la Bibliothèque nationale, qui a rassemblé près de 300 personnes, eh bien, il y a eu un séminaire qui s'est tenu au musée à la Bibliothèque du Grand Orient, avec les spécialistes sur des questions d'érudition maçonnique, sur des manuscrits, etc. Donc, un musée, c'est certes l'accueil du public et de monter des expositions séduisantes, mais c'est aussi un travail scientifique, d'où notre association avec la Fondation Académique Américaine PSO pour monter ces conférences internationales d'histoire de la franc-maçonnerie.
Policy Studies Organization.
Exactement.
PSO. Lors de cette conférence, ont été abordés de nombreux sujets, notamment les débuts de la franc-maçonnerie spéculative, sur lesquels nous allons revenir, la fixation des systèmes de grades pour la première franc-maçonnerie, mais aussi beaucoup d'autres sujets, notamment inattendus.
Oui, alors il y a un thème dans une conférence comme ça, mais naturellement, il y a des communications qui sont un peu en dehors du thème. Alors, par exemple, si nous étions centrés sur la question de la fixation de la pratique maçonnique au XVIIIe siècle, dans ses grades symboliques et dans les autres grades, on a aussi une communication très intéressante sur laquelle on pourra revenir, sur les liens entre le saint-simonisme et la franc-maçonnerie. Une autre communication très intéressante, analysant des textes maçonniques des années 1820 à la lumière du romantisme, montrant comment la maçonnerie avait été un vecteur de diffusion d'un certain esprit néo-gothique, romantique, troubadour. Donc, à côté des thèmes principaux, il y avait, je crois, près de 30 intervenants. Donc, bien sûr, il y a parfois des thèmes qui ne sont pas exactement dans la ligne de la conférence, mais qui permettent aussi d'échanger, de rencontrer.
Mais revenons à la conférence inaugurale qui a été donnée par Andrew Prescott, éminent chercheur, historien de la franc-maçonnerie. Et sur ce coup de tonnerre qui est la remise en cause du 24 juin 1717 comme début officiel anglais de la première organisation de la franc-maçonnerie spéculative, de la première obédience, tout est remis en cause, Pierre Mollier.
Alors, tout est remis en cause, oui et non. Alors, Andrew Prescott s'est singularisé en 2017 lors des cérémonies autour et des conférences et des recherches autour des 300 ans de la franc-maçonnerie en critiquant, en ayant un regard critique, et en tout cas en remettant en cause la théorie classique de la création de la franc-maçonnerie, de la première grande loge en 1717, dans une communication un peu historique avec Susan Somers. Et donc, voilà. Alors l'idée, c'est que en fait, c'est pas 1717, c'est 1721, mais derrière cette question de date, il y a d'autres enjeux. Et grosso modo, la thèse de Prescott, c'est que c'est pas juste la création de la franc-maçonnerie 1717, c'est d'ailleurs 1721, mais ça doit s'interpréter dans un contexte politique. Et grosso modo, pour faire simple, la création de la première grande loge en Angleterre à Londres, probablement 1721, c'est une initiative des élites Whigs pour essayer de fédérer la classe moyenne anglaise derrière la nouvelle dynastie des Hanovres qui a besoin de s'enraciner dans la société anglaise. Et donc, il y a une forte dimension politique dans cette formation de la première grande loge. Et d'ailleurs, les Français y jouent un rôle puisque on a toujours, bien sûr, Jean-Théophile Desaguliers qui est un peu l'animateur de tout ça. Mais tant Prescott que Richard Berman montrent aussi que, par exemple, les Huguenots, les réfugiés français Huguenots, y ont joué un grand rôle, notamment dans la plus importante des trois loges fondatrices de la Grande Loge, qui n'est pas Royal Grill d'ailleurs, qui est le gobelet et le raisin. Et il rappelait à cette époque, ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est que dans les années 1720, 10% de la population de Londres est soit huguenote, soit d'origine huguenote. Et donc, grosso modo, ces gens avaient tout à fait intérêt à soutenir le régime libéral des Whigs, puisqu'ils venaient de la France de Louis XIV, dont ils avaient mesuré toutes les difficultés, pour être sobre.
Alors, il y a aussi des événements antérieurs, parce que là, vous faites allusion. Alors, à 1721, grande... mais il y a peut-être des débuts plus précoces.
Alors, le grand intérêt de la conférence d'Andrew Prescott, c'est que finalement, il nous a fait un beau cadeau. Ce qu'on lui demandait, c'est finalement de présenter au public français ses recherches, les débats, les termes de la controverse. Et il a pris l'initiative de proposer non pas une sorte de résumé de toutes ses recherches sur ces questions-là, qui sont accessibles par des articles qu'il a publiés, mais vraiment une nouvelle approche. Et comme il était à Paris, il a voulu appliquer les idées de Marc Bloch, et notamment dans ce magnifique livre qui s'appelle « Le métier d'historien », à la question de l'apparition de la franc-maçonnerie. Alors il applique donc à cette question de l'apparition de la franc-maçonnerie un certain nombre de réflexions que Marc Bloch a sur l'histoire. L'idée, par exemple, le fait de s'interroger sur les origines, il y a toujours quelque part une dimension politique, parce que l'origine, c'est quelque chose qui crée l'identité. Et donc, le fait même de dire, par exemple, que la franc-maçonnerie a été créée en 1717 ou en 1721, eh bien, ça veut dire qu'on considère que le cœur de la franc-maçonnerie, c'est Londres, c'est l'Angleterre, etc. Et ce qui est intéressant dans le travail que nous a proposé Andrew Prescott, c'est qu'il montre que finalement, quand on quitte ces enjeux politiques pour essayer d'avoir une approche vraiment scientifique, eh bien, comme beaucoup de créations, comme beaucoup de fondations, il n'y a pas un moment T0. C'est un processus qui se déroule sur des années, voire sur des décennies, et en plusieurs endroits. Et là, il nous disait par exemple, pourquoi dater la création de la franc-maçonnerie de 1717 ou 1721 à Londres, et pas d'initiation de Robert Moray en 1641, ou par exemple d'une assemblée à York en 1663. Tous ces temps-là ont contribué à l'émergence de la franc-maçonnerie. Donc l'idée de prendre 1717 ou 1721, c'est un choix, et un choix qui n'est pas purement académique, qui est aussi un peu politique. Et puis, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la conférence de Prescott, c'est que on l'a accusé, finalement, on a un peu caricaturé son analyse. On a dit, mais en fait, ce qu'il explique, c'est que la maçonnerie, c'est une création politique par les libéraux anglais au début des années 1720. En fait, c'est pas du tout ça qu'il dit. Il dit que la formation de la Grande Loge, c'est certainement ça, mais qu'il y a plein de phénomènes précurseurs. Et par exemple, il a attiré notre attention sur cette assemblée dans la région d'York des maçons en 1663, des maçons qui sont en partie de métier et en partie pas de métier, donc quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et ce qu'il dit,
la maçonnerie spéculative.
Et ben voilà, il y a une partie de maçonnerie spéculative. Et il dit, il y a plus de témoignages sur cette assemblée de 1663 que sur 1717, où effectivement il y a peu de témoignages parce qu'elle a probablement pas existé. Donc la communication de Prescott, elle était très stimulante d'un point de vue intellectuel, et on est sorti un peu de la caricature qu'on lui colle souvent de dire la création de la maçonnerie, c'est politique, c'est les Whigs, etc. Il montre que c'est un processus long, multipolaire, et donc finalement ce qui est intéressant, c'est pas tellement de chercher le moment absolu de la création qui n'existe pas, mais de voir tous les facteurs philosophiques, économiques, sociaux, politiques, qui ont amené ces mutations. Et bien sûr, alors il faut s'intéresser à ces mutations, les identifier. Il nie pas l'histoire événementielle, mais il essaye de la relativiser. Et puis, il montre, par exemple, que derrière notre regard au ras des événements, quand on prend un peu de recul, on trouve des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, alors c'est lui qui le fait, lui, un chercheur britannique, il dit on oppose souvent la Grande Loge Unie d'Angleterre et le Grand Orient, qui sont d'ailleurs séparés depuis la fin du 19e siècle, mais quand on prend un peu d'élévation, ils font chacun chez eux exactement la même fonction. La Grande Loge Unie d'Angleterre, depuis le 19e siècle, soutient la monarchie anglicane et victorienne et diffuse son idée, son idéologie. Et le Grand Orient, en France, il soutient et il diffuse les idées de la Troisième République émergente.
Donc,
finalement, la République. Donc, finalement, leur fonction sociopolitique est exactement la même, même si, naturellement, dans les déclarations, ça se fait de façon différente.
Pierre Mollier, on le voit, on pourrait consacrer toute l'émission, même plusieurs, à ce seul thème, mais d'autres ont été traités, notamment un qui était central, qui est la fixation des grades dans la franc-maçonnerie des origines de ce début du XVIIIe siècle.
Oui, alors une question qui intéresse beaucoup les historiens depuis quelques années, c'est l'apparition de ce qu'on appelle l'éograde. Alors pour faire court, longtemps, on a pensé que c'était un phénomène tardif, un peu artificiel et français.
C'est ce que
disaient les Anglais. Grosso modo, il y avait la vraie maçonnerie, apprenti, compagnon, maître, et puis ces autres grades qui ont été un des vecteurs privilégiés de l'ésotérisme, du symbolisme dans la France du XVIIIe siècle, étaient une création plus tardive. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que pas du tout, les grades complémentaires, notamment les premiers, le quatrième grade, etc., se situent vraiment dans le sillage de la formation de la franc-maçonnerie spéculative. Mais bon, c'est une époque très précoce, on a très peu de documents, on a quelques pièces du Peulse, et donc on a fait des tables rondes, des recherches, des confrontations, pour élaborer un modèle qui maintenant me semble assez convaincant de l'apparition, de la fixation du système des grades, donc de la pratique maçonnique, tant dans ce qu'on appelle les grades symboliques, apprenti, compagnon, maître, que pour ce qui est des premiers hauts grades. Et là, c'est vraiment un thème transnational. Il a fallu des historiens anglais, des historiens américains, des historiens français, et chacun avait un petit bout du Peulse, et on a pu progresser. Allemand aussi, bien sûr.
Parce que ce qui est au cœur de ces réflexions, c'est le grade de Scott Masters,
qui est attesté en Angleterre dans les années 1730, qu'on retrouve en Allemagne, dont on retrouve une forme assez archaïque en France, qu'on va retrouver aux Amériques, enfin dans les Caraïbes, mais aux Amériques de façon très précoce aussi. Donc finalement, étudier la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, c'est déjà un phénomène cosmopolite. Il ne faut pas se donner de frontières, d'où l'intérêt de ces conférences internationales qui permettent à chacun de découvrir un peu l'avancée des recherches des autres.
Ah, il nous reste peu de temps, mais je voudrais pas finir cette émission avant d'aborder un des thèmes inattendus de cette conférence, au cours duquel ont été exposés les liens ignorés jusqu'à présent entre le saint-simonisme et la franc-maçonnerie du 19e siècle. Alors, que sont ces liens, Pierre Mollier?
Alors, on connaissait les liens de la franc-maçonnerie des idées nouvelles au XIXe siècle. Les loges sont un des vecteurs de diffusion des idées nouvelles. On connaissait aussi, ça a été assez étudié, des liens entre le fourriérisme et la franc-maçonnerie. Il y a des loges qui étaient fourriéristes, qui ont fait de la propagande fourriériste, etc. En revanche, pour le saint-simonisme, on ne voyait pas vraiment de connexion. Il y avait une ou deux personnes qu'on trouvait et dans la maçonnerie et dans le saint-simonisme, mais il n'y avait pas vraiment de connexion. Et Aymeric Le Déliou a fait une communication très, très convaincante autour de la loge Les Amis de la Vérité dans les années 1820 et qui montre comment Saint-Amand Bazard, Philippe Buchez, etc. sont très liés au milieu maçonnique et sont aussi des saint-simoniens militants. Et puis, alors, il y a le cas de Paris avec Ménilmontant, et puis il y a un cas extraordinaire, alors qui était un peu connu, mais qu'on a pu mettre en lumière, c'est, par exemple, à Castelnaudary, il y a eu un groupe saint-simonien très actif dans les années 1820, et ce qu'il y a de fascinant pour l'historien, mais pas que pour l'historien, c'est, on voit ces jeunes saint-simoniens dans les années 1820, et alors, ils traversent tout le 19e siècle, dans des aventures incroyables, c'est que les saint-simoniens ont été en Orient, en Égypte, etc., et ils finissent, pour faire court, conseillers généraux radicaux-socialistes dans les années 1870-1880. C'est un parcours humain, un parcours philosophique, un parcours d'engagement absolument extraordinaire, de l'idéalisme de la jeunesse à l'installation pragmatique de la démocratie par la Troisième République.
Oui, et puis c'est une fin qui les rapproche encore plus, il était besoin évidemment de la franc-maçonnerie.
Ah oui, alors ils sont tous maçons bien sûr.
Eh bien, Pierre Mollier, merci de ce bilan de cette troisième conférence internationale. Je crois que des actes seront publiés, m'avez-vous dit ?
Alors, sur le site de PSO, il y aura les actes en anglais. Et puis, nous allons publier dans différentes revues, Renaissance traditionnelle qui a participé à la conférence, les chroniques d'histoire maçonnique, des versions françaises de ces communications. Donc, l'idée, c'est que les principales communications seront publiées soit en anglais, soit en français.
Et pour mémoire, pour ceux qui sont intéressés, je rappelle les deux numéros consacrés au
début de l'écossisme, par Renaissance traditionnelle.
Par Renaissance traditionnelle, tout à fait. À laquelle, revue à laquelle vous êtes très attaché.
Et deux numéros dans lesquels il y a beaucoup de choses nouvelles et passionnantes.
Bien, il ne me reste plus qu'à espérer retrouver nos auditeurs le dimanche 1er septembre pour une nouvelle émission du Grand Orient de France. Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été, pas trop chaud. Merci à Stéphane Desmonts à la technique et à Dany Journeau à la réalisation.